Il est 9h à Paris, 8h en temps universel. Merci d'écouter RFI. Bonjour, bienvenue à Cotonou. Le Bénin s'apprête à célébrer les 35 ans de sa conférence nationale souveraine. Un rendez-vous historique qui fut copié dans de nombreux pays africains. L'occasion ce matin de dresser un état des lieux de la démocratie sur le continent. Mais d'abord le journal international. Bonjour Marion Cazeneuve.
Bonjour Juan Gomez, bonjour à toutes et à tous. La guerre commerciale de Donald Trump à la une. Le président américain va imposer des taxes douanières de 25% sur les produits européens. Même chiffre pour les produits mexicains et canadiens. Les 27 ont aussitôt répondu. On est à Bruxelles en début de journal. Une nouvelle étape dans la trêve entre Israël et le Hamas. Le groupe islamiste a restitué les corps de 4 otages israéliens. Israël, de son côté, a libéré des centaines de prisonniers palestiniens. Dans ce journal également, la brouille entre Paris et Alger. La France menace de réviser des accords migratoires si l'Algérie continue de refuser l'accueil de ressortissants expulsés par la France. Dans l'est de la RDC, le groupe M23 poursuit son avancée et se rapproche de la province du Tanganyika. 2500 soldats congolais ont été déployés à Kalemie, chef-lieu de la province. Et puis dernière chance pour trouver un accord à la COP16 biodiversité, dernières heures de débat aujourd'hui à Rome. Le président américain poursuit ses attaques contre les Européens. Donald Trump organisait hier son premier conseil des ministres depuis son retour à la Maison-Blanche. Son homologue français Emmanuel Macron avait tenté plus tôt dans la semaine de le dissuader de taxer les produits européens. Et ça n'a donc pas porté ses fruits. Donald Trump annonce des droits de douane de 25%, soit le même niveau que pour les produits canadiens et mexicains. Il veut ainsi réduire le déficit commercial de son pays vis-à-vis de l'Europe. L'Union européenne a été conçue pour entuber les États-Unis, a-t-il aussi commenté. On retrouve à Bruxelles notre correspondant Pierre Benazet. Pierre, les 27 ont aussitôt répondu à Donald Trump.
Oui, qu'il réagirait immédiatement et avec fermeté, c'est ce qu'assure le commissaire européen chargé du marché unique. Le porte-parole du commissaire chargé du commerce, lui, met les points sur les i. L'UE a toujours été une aubaine pour les exportateurs américains et très profitable pour les investisseurs américains. Elle est prête au dialogue, à l'ouverture, à la réciprocité, mais seulement si on suit les règles du jeu. L'Europe était de toute façon déjà dans le collimateur parce que les droits de douane imposés par Trump en 2018 ont été suspendus par Biden jusqu'au 31 mars de cette année. Les Européens savaient qu'ils étaient sur la sellette et ils ont déjà prévu une liste de produits à taxer si ces droits de douane reprennent. Moto Harley-Davidson, Bourbon, Erel, barre d'acier inoxydable par exemple. En 2018, l'UE avait taxé 182 produits à la fois par des mesures miroirs ou de réciprocité, mais aussi de rétorsion, qu'on appelle par euphémisme mesure de rééquilibrage. La rétorsion était évidente puisque l'UE ciblait principalement des productions originaires des circonscriptions qui avait voté pour Donald Trump ou qui vote traditionnellement pour le Parti républicain.
Pierre Benazet en direct de Bruxelles pour RFI. Les Européens continuent aussi de plaider le cas de l'Ukraine auprès des États-Unis. Ils demandent notamment des garanties de sécurité américaine, mais pour Donald Trump, c'est à l'Europe de fournir ces garanties à Kiev. Au Proche-Orient, ce nouvel échange dans le cadre de la trêve entre Israël et le Hamas. Le Hamas a restitué les corps de 4 otages israéliens morts en captivité à Gaza. Israël a libéré ensuite dans la nuit plus de 600 prisonniers palestiniens. La première phase de cette trêve est censée prendre fin dans 2 jours, samedi. Les deux parties pourraient bientôt reprendre les pourparlers pour organiser la seconde phase du cessez-le-feu. Les relations entre la France et l'Algérie risquent de se tendre encore un peu plus. Le Premier ministre français François Bayrou demande à l'Algérie de réexaminer des accords migratoires signés en 1968. Cela fait suite à l'attentat de Mulhouse qui a fait un mort, attentat perpétré par un Algérien sous OQTF et que l'Algérie a refusé de reprendre à plus de 10 reprises. François Bayrou lance donc un ultimatum à Alger pour réappliquer ces accords de 1968.
La France va demander au gouvernement algérien que soit réexaminée la totalité des accords et la manière dont ces accords sont exécutés. Nous allons faire cette démarche en donnant 1 mois, 6 semaines pour que nous puissions les réexaminer. Et pendant ce temps, va être présentée au gouvernement algérien une liste, j'allais dire, d'urgence de personnes qui doivent pouvoir retourner dans leur pays et que nous considérons comme particulièrement sensibles de ce point de vue-là. Nous pensons, nous voulons que on trouve des voies pour que, enfin, les accords soient respectés et que la réadmission puisse être possible. Si ça n'était pas le cas, le gouvernement français considérerait que les avantages particuliers qui sont consentis au terme de ces accords devront être remises en cause.
Le Premier ministre français, François Bayrou, et le gouvernement français estiment ce matin que ce réexamen des accords est une main tendue à Alger. En Guinée-Bissau, l'opposition appelle aujourd'hui à la paralysie totale du pays. Elle veut ainsi protester contre le mandat du président Oumaru Sissoko Embalo, censé se finir aujourd'hui selon elle. Et ce dernier, la semaine dernière, a convoqué les élections présidentielles et législatives pour le 30 novembre prochain. Dans l'est de la RDC, la tension commence à retomber à Kalemie, chef-lieu de la province du Tanganyika. Il y a une semaine, l'arrivée massive de militaires congolais en provenance d'Uvira, au sud Kivu, avait semé la psychose dans la ville. Ces soldats s'étaient repliés à Kalemie, à 304 20 km d'Uvira face à l'avancée de l'AFC M23. Pour rassurer la population et remonter le moral des troupes, le chef d'état-major des FARDC s'est rendu sur place il y a 3 jours et il a insisté sur la nécessité de restaurer la discipline au sein de l'armée et d'assurer la sécurité dans la ville. Explication de Passion Nigodi.
Plus de 2500 militaires ont débarqué à Kalemie par voie lacustre en provenance d'Uvira en raison de l'avancée de l'AFC M23. Selon des sources locales, ceux qui étaient armés ont été désarmés dès leur arrivée au port. Parmi eux, on dénombre au moins 200 blessés. Ces soldats sont actuellement regroupés au camp militaire marin où ils sont encadrés et réarmés moralement, selon le maire de Kalemie, David Mukeba, qui a confirmé à RFI qu'ils seront bientôt redéployés au front. Dans la ville, le dispositif sécuritaire a été renforcé, notamment autour du port et dans les points stratégiques. La sécurité est sous contrôle sur toute l'étendue de la ville, a assuré le maire. Les autorités locales tentent également de rassurer la population, affirmant qu'elle reste sur place et ne compte pas quitter la ville. Sur le plan économique, les activités portuaires ont repris, mais la circulation des marchandises reste perturbée. Des pénuries commencent à se faire sentir sur le marché, notamment pour certains produits alimentaires provenant de Goma et Bukavu via Uvira. Cette rareté a entraîné une hausse des prix. Face à cette situation, une réunion est prévue ce jeudi au gouvernorat. Elle rassemblera les autorités locales, la Fédération des entreprises du Congo et la société civile.
Passion Ligodi, toute l'actualité africaine à retrouver à toute heure sur notre site rfi.fr et dans notre prochain journal d'actualité africaine à 8h30, temps universel. Dernier jour de négociation pour la COP 16 biodiversité à Rome. Il y a 4 mois, à Cali, en Colombie, cette COP 16 s'était soldée sur un échec. Les pays participants se retrouvent donc en Italie et vont tenter d'arracher un accord, passer outre les divergences entre les pays du Nord et les pays du Sud. Hier soir, la présidente de la COP, la ministre colombienne de l'Environnement, a soumis aux délégués des plus de 150 pays présents un nouveau texte qui tente de réconcilier ceux qui souhaitent la création d'un nouveau fonds pour la biodiversité et ceux qui plaident pour la réforme des mécanismes financiers existants. À Rome, Lucille Gimbert.
Un plan de travail de plusieurs années pour évaluer les mécanismes financiers actuels et évaluer les possibilités pour améliorer l'efficacité des financements biodiversité. Voilà la solution colombienne qui prévoit aussi que d'ici 2030, les pays se soient choisis un fonds spécifiquement dédié à la biodiversité et placé sous l'autorité de la COP, soit parmi les fonds existants, soit en créant un nouveau. Une solution qui satisfait les pays occidentaux et plusieurs États latino-américains. Andreas Bjelland Eriksen, ministre norvégien de l'Environnement.
Nous avons été flexibles car nous avons finalement dit oui au fait que ce processus puisse éventuellement aboutir à la création d'un nouveau fonds. Ce n'était pourtant pas ce que l'on voulait au départ, mais nous pensons qu'il est important que l'on trouve une zone d'atterrissage que tout le monde puisse accepter.
Déception en revanche du côté du Brésil et surtout des pays africains qui y voient une façon de repousser encore la balle, comme la déléguée ivoirienne en plénière hier soir.
Le document qui nous a été présenté travaille sur les missions de l'entité qui sera désignée avant de pouvoir établir le fonds. Pour la Côte d'Ivoire, cela devait être l'inverse.
Le texte s'empare aussi de sujets importants pour augmenter les ressources dédiées à la biodiversité, la question de la soutenabilité de la dette de certains pays ou encore l'ouverture de la liste des pays donateurs pour protéger la nature.
Lucille Gimbert. Enfin, des nouvelles du pape François. Son état continue de s'améliorer, mais il reste hospitalisé à Rome. Cela fait bientôt 2 semaines que le souverain pontife de 88 ans est pris en charge pour une pneumonie. Le Vatican précise ce matin que François a bien dormi et se repose. 9h10 à Paris, à suivre sur RFI. Appel sur l'actualité. Juan Gomez est à Cotonou.